On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Faites-moi une cuisine simple. Je déteste les complications, les préparations tarabiscotées, les décorations inutiles. Quand je suis arrivé dans cette maison, le pâtissier s'acharnait à décorer ses desserts avec des petites roses en sucre. À la fin, j'ai dû pondre une note écrite pour m'en débarrasser définitivement. J'ai besoin de retrouver le goût des choses simples, des choses vraies.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Mangez les pommes !
Pas sûr qu'on mange des pommes, cher à Jacques Chirac, mais on va tout de même manger des fruits de saison, j'aperçois. Des fraises, oui, des fraises encore, fin septembre. Du coin, de la figue, du raisin, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau qui s'est transformé littéralement en ce dimanche en vitrine de pâtisserie. Nous sommes en direct devant un public de bec sucré. Merci chers amis d'être en notre compagnie en ce dimanche et nous sommes également sous les caméras du studio 621. Oui, c'est une première dans cette émission, cela s'appelle le live stream. Cela signifie que vous pouvez suivre en vidéo et en direct sur franceinter.fr et sur l'appli mobile de France Inter. La leçon de pâtisserie que nous vous proposons aujourd'hui, mais attention, une leçon de pâtisserie naturelle. Oui, pâtisserie naturelle, c'est la nouvelle expression dont s'emparent les grands artisans et les pâtissiers amateurs. On va voir ce que recouvre cette pâtisserie naturelle. Disons, pour faire court, que c'est une pâtisserie sans cochonnerie, une pâtisserie plus sensible à nos aspirations nutritionnelles et nos impératifs écologiques. La pâtisserie naturelle, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de recettes signé Jennifer Hart-Smith. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, Jennifer, en direct.
Merci.
Avec nous.
Merci.
Vous êtes franco-australienne.
Oui.
Vous avez créé Tookies Gambetta, une marque de biscuits à base de farines alternatives. Et vous nous avez promis des recettes sucrées, saines, écologiques, un petit aperçu.
En fait, c'est surtout des recettes avec des ingrédients le moins raffinés possible et le plus complet possible. Il n'y a aucune exclusion, mais il y a juste la réhabilitation d'ingrédients un peu plus complets, qui sont moins transformés.
Pas d'additifs, on va le voir
pas
aussi, évidemment.
Les de saison, les fruits de saison, les légumes de saison aussi.
Ça y est, toute l'émission est faite. On a la définition de la pâtisserie naturelle, mais on va en savoir évidemment davantage avec vous. Vous allez même, dans un instant, nous faire une démo en direct. Pour quel dessert qu'on peut faire facilement à la maison ?
Une tarte au coin.
Tarte au coin.
Il y a plusieurs versions de la tarte au coin. On peut faire une pâte crue et la cuire. Et là, c'est une tarte qu'on va monter en direct.
Que vous allez monter en direct sur le plan de travail qui a été aménagé. Et on peut, je l'ai dit, vous suivre évidemment en vidéo sur franceinter.fr. Avec nous également, un digne représentant de la haute pâtisserie française. L'un des pionniers d'une pâtisserie de saison, engagée, saisonnière. C'est Hugues Pouget. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, Hugues ?
Très bien, merci.
Vous êtes venu à plusieurs reprises dans cette émission.
Oui.
On se souvient notamment d'une galette des rois un certain mois de janvier, il y a quelques années. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui suivent encore cette recette qui a eu beaucoup de succès, absolument, au Kombawa. Vous êtes chef pâtissier de Hugo et Victor.
Oui.
On est boulevard Raspail, Paris 7e. Et vous allez, tout à l'heure, vous aussi, passer à la casserole, si j'ose dire, ou plus exactement derrière le micro, pour une démo en direct. Sur quel dessert ?
Sur le pavlova au marron.
Une pavlova au marron, vous allez voir ça. Pour cette première leçon de cuisine filmée dont on va déguster, deux chroniqueurs, Déborah Dupont et Arnaud Daguin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour tout le monde.
Déborah.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Mais bien, et puis j'ai décidé, je m'y mets. Donc à quoi, on verra.
Ah, oulala, ça c'est du teasing. Très bien.
Des promesses.
Arnaud, un coup de lame toujours, j'espère.
Un coup de blush, un coup d'éclat aujourd'hui, nude.
Nude. Voilà. Eh bien écoutez, quelques indices sur votre coup de lame qui interviendra vers 11h30. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Fabrice Desmaz à la technique et Gwenaëla Masson à la régie. Gwenola Masson à la régie vidéo. Il y a Nadia Chougui pour la préparation. Toutes les recettes que nous abordons sont d'ores et déjà en ligne avec nos infos pratiques et le podcast de l'émission sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Comment faire du vert, du jaune, du rouge, sans utiliser le moindre produit chimique ? J'ai passé des heures dans mon labo. à chercher la formule magique. Et j'ai découvert qu'on pouvait obtenir la couleur caramel avec de la poudre de carotte. Grâce à la poudre d'épinard, j'ai recréé la couleur pistache. Sans le goût d'épinard, bien sûr. Le résultat ? Mes nouveaux macarons. Nature. 11 parfums aux couleurs plus douces, entièrement naturelles. Une petite révolution, un retour aux sources. Et nos macarons sont toujours aussi bons, mais ça, c'est vous qui jugerez.
Eh bien, on va juger s'ils sont bons, vos macarons, dans un instant, Hugues Pouget. C'est d'ailleurs un jeune auditeur qui nous rejoint. Bonjour, Ernest.
Bonjour.
Dans un instant, on va vous faire un test macaron. Il y a un petit piège à la clé, mais je suis sûr qu'il y a surtout du plaisir au bout du chemin. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir avec vous. On entendait que Pouget un extrait d'une vidéo promotionnelle où vous présentiez votre travail autour des macarons en partant du constat que le macaron ne tourne plus rond. C'est vrai que lorsque l'on se balade comme ça à Paris ou en région, que l'on passe devant la vitrine des grands pâtissiers, bah souvent les macarons affichent une couleur très très vive, parfois même fluo, car pour la plupart d'entre eux, ils contiennent des colorants qui de temps en temps sont d'origine synthétique et pas forcément inoffensifs pour notre santé. Vous avez pris le taureau par les cornes, plus de colorants.
Oui, en fait, moi aussi également, pendant 20 ans, j'ai utilisé des additifs, des colorants, enfin, j'avais des macarons extrêmement colorés. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai ouvert Hugo Victor et on a fait une pâtisserie, j'allais dire, de marché. On allait au-delà de la saison, on faisait une tarte à la mirabelle pendant que c'était de la mirabelle, la tarte aux figues pendant que c'était de la figue. Et c'est vrai que donc déjà, c'était un petit peu la genèse de ce travail. Et rapidement, on a commencé à exporter nos produits, notamment au Japon. Et en fait, il se trouve que la législation au Japon est différente que celle en Europe. Et alors pourquoi, je n'en sais rien, mais donc certains colorants étaient interdits. Donc sur les chocolats ou les macarons, ben, on mettait des colorants autorisés au Japon. Et plus le temps passe et plus la législation, que ce soit au Japon et après en Corée, était quand même de plus en plus compliquée. On avait des analyses très strictes, etc. Et un jour, en fait, j'ai eu une prise de conscience personnelle et je me suis dit, mais je fais des tartes avec des figues de Solliès, j'utilise mes propres fraises, etc.
Précisons d'ailleurs que vous avez toujours eu dans le milieu un attachement très fort à la terre. Oui. Et vous avez encore aujourd'hui, on va le voir, un potager dans le Loiret. Vous absolument. Travaillez en étroite collaboration avec un maraîcher qui est en...
Aurélien Lombard, vraiment à l'ancienne. À Cortra. Et en fait, c'est des fraises de pleine terre, etc. Donc, on a toujours fait attention à ça. Et pour moi, c'était un paradoxe en faisant une belle tarte aux fraises et à côté, j'avais un chou glacé avec du glaçage bien flashy et des macarons flashy. Et en fait, j'ai commencé à me documenter. Et alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'écrits qui commençaient quand même à décrier l'utilisation des colorants. Et quand même, l'être humain, il est fait plutôt pour manger une fraise que des poudres issues de la pétrochimie. Quand même.
On est assez d'accord.
Et en fait, je suis parti en fait, du constat de la paella. La paella, c'est le safran qui colore le riz. Et je me suis dit, c'est une épice, c'est une poudre, ça colore.
Allez, on va faire un macaron paella.
Et en fait, presque. Et en fait, donc du coup, j'ai acheté toutes les poudres possibles et inimaginables, que ça soit la poudre, des poudres de fleurs, des poudres de fruits, des poudres de légumes, des épices. Et on s'est mis à faire des essais. Alors au début, ça marchait pas. Et puis petit à petit, ça a commencé à marcher sur les macarons, sur les chocolats. Et ça a marché. Et donc du coup, alors ça a été un travail assez long. Hein, ça oui. nous a pris 2-3 ans. Et il se trouve que ça a marché. On a commencé à commercialiser nos macarons et nos chocolats en 2016. On a commencé la commercialisation au Japon. Et après rapidement, je me suis dit mais il faut que j'arrête toutes ces béquilles techniques. Moi, j'ai 42 ans. J'ai commencé la pâtisserie dans les années 90 et j'ai vécu cette révolution technologique. Où d'ailleurs, c'était merveilleux. D'avoir tous ces additifs qui arrivaient pour faire plein de choses et des exploits techniques en pâtisserie, je l'ai vécu, je l'ai fait.
À l'époque de la gastronomie moléculaire, il faut quand même avouer que vous tous, les représentants de la haute pâtisserie, oui. vous utilisiez des génial. Poudres de perlimpinpin, il y avait des effets de texture absolument incroyables.
Des mousseux, de la sphérification, tout ça, on trouvait ça tout génial et moi le premier.
Et c'est d'ailleurs pour la plupart des additifs qui étaient préalablement utilisés dans l'industrie agroalimentaire.
Et d'ailleurs, une petite anecdote. Un jour, j'assiste à une conférence d'un chimiste. C'était vraiment en pleine période El Bouli, dans les années 2000-2002. Et un jour, on fait une conférence avec un chimiste. On était un parterre de chefs. Et en fait, il y avait un chimiste qui nous montrait comment faire toutes ces sphérifications, toutes ces mousses, émulsions,
avec des alginates, etc.
Du xanthane, etc. Et tout le monde était émerveillé. On trouvait ça tout génial. Et la conférence termine, tout le monde commence à s'en aller, et puis le chimiste, il dit « Écoutez, est-ce que je peux, moi, vous poser une question ?» Alors, tout le monde se rassied, donc on était tous un peu interrogués, il dit « Écoutez, moi, il y a un truc quand même que je comprends pas. » Il dit « Vous êtes tous des grands chefs. » Alors, tout le monde, on se gargarisait absolument. Tout le monde, vous êtes les premiers, vous revendiquez le homard bleu de Bretagne, l'agneau de tel endroit, etc. Alors, tout le monde dit « Oui. » Il dit « Mais si demain, le législateur s'intéresse à ça, vous allez devoir être obligé de marquer homard bleu de tel endroit avec du xanthane ou des choses comme ça. » Et c'est vrai que moi, ça a été un peu un choc, cette phrase, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est un contresens. On veut faire de la belle pâtisserie, de la haute gastronomie, et on vient mettre un peu des poudres de perlimpinpin. Et en fait, je l'ai fait pendant des années, et vraiment, depuis 2016, alors ça a été un travail petit à petit, parce que j'ai dû, entre guillemets, purifier ma pâtisserie. Et aujourd'hui, regardez, on peut faire une tarte aux figues de saison, et on n'a pas besoin de glaçage, on n'a pas besoin de couleurs vives. Ce sont les ingrédients qui colorent les tartes.
Et vos colorants, il faut le préciser, notamment pour revenir sur vos macarons, oui. Eh bien ce sont des poudres naturelles, oui. Faites visiblement végétale. À partir de fruits, de légumes, en fait, d'épices. Vous avez des fioles,
on
croirait des pigments de peinture.
En fait, il y a trois sortes de colorants. Il y a les colorants azoïques, non azoïques. Il y a les colorants dits naturels. Alors, les colorants dits naturels, certes, ils sont un petit peu mieux que des colorants azoïques, par exemple. C'est à base d'extraction de carottes, de betteraves, etc. Mais il y a quand même des solvants à l'intérieur. Il y a quand même des poudres de perlimpinpin. Et en fait, notre technique, c'est de colorer vraiment qu'avec l'ingrédient. On colore avec de la poudre de betterave, on colore avec du curcuma. Et quand on lit la fiche technique de cette poudre, ben, c'est deux points. Betterave, il y a rien d'autre. Et en plus, elles sont bio.
Et en plus, elles sont biologiques. Jennifer Hartsmith, vous êtes d'accord pour dire que les colorants, évidemment, ne font plus partie du terrain de jeu pâtissier ou ne doivent plus en faire partie?
Enfin, pour moi, c'est évident que ça ne doit plus en faire partie, tout simplement parce que c'est effectivement délétère pour la santé. Et à partir du moment où c'est délétère pour la santé, on peut pas y prendre plaisir. Enfin, je veux dire, c'est
ça remet quand même en cause l'approche une certaine esthétique de la pâtisserie à laquelle on s'était habitué.
Complètement.
Des couleurs très franches, des rouges très rouges, des blancs très blancs.
Voilà, tout à fait. Et en fait, il faut absolument que le consommateur ne soit pas dérouté quand il voit justement des macarons avec une couleur un peu moins franche. Ça ne veut pas dire que le macaron sera moins bon ou qu'il aura moins de goût. Il est juste plus naturel et au contraire, ça doit être valorisant pour le produit. Donc, il faut accepter de revoir ces critères esthétiques, que ce soit chez les pâtissiers, mais le consommateur aussi.
Eh bien, justement, on va voir si notre ami Ernest va être dérouté par ce qu'il a devant lui. Est-ce que tu peux nous décrire... Quel âge tu as d'abord, pardon ?
11 ans.
Tu peux nous décrire ce que tu as devant toi ?
Bah, il est plus là, il est dans le
Ok. Tu avais quoi devant toi ?
Un macaron.
Un macaron qui avait quelle couleur ?
Vert. Je pense qu'on a utilisé la poudre d'épinard pour faire la couleur verte.
Ah bon, et t'en sais quoi ?
Bah, c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure.
Ah bon ? Ah, et ben.
C'est dans la vidéo, on l'a pas dit, mais
c'était. Ah, c'était dans la vidéo. Donc, il a raison.
Il a, absolument.
Mais on va continuer à tendre le piège jusqu'au bout parce qu'on voudrait te demander le parfum de ce macaron.
Bah, le parfum, c'est. D'après moi, c'est de la pistache. On a mis de la crème avec.
Bravo.
Bien.
Pistache. On a choisi effectivement. Tu as aimé ou pas ?
Ouais, c'était très bon.
Tu retourneras chez Hugo et Victor pour lécher la vitrine ?
Mais non, mais je pense que c'est la première chose que j'ai retenue d'ailleurs, c'était très bon.
Le goût, voilà.
Et donc, la dimension visuelle, c'est vrai que la pistache, on a l'habitude d'avoir une pistache quasiment vert fluo, alors qu'on sait que quand on utilise de la vraie pistache, on est plutôt dans les tons
c'est comme marron, la glace à la pistache.
Marron clair, etc. Ouais, là, il y avait une couleur, on va dire, vert pastel assez subtile, mais ça ne t'a pas dérouté, t'as pour autant trouvé le macaron très bon.
Ouais, parce qu'il est devant moi et parce que j'ai bien envie de le manger, moi, le petit macaron.
Et ben tout va bien, elle est belle la vie et tu vas voir, Ernest, que t'as plein d'autres choses à déguster. Merci beaucoup. Dans un instant, on va voir que la pâtisserie naturelle, c'est non seulement une pâtisserie débarrassée des additifs et des produits chimiques, mais c'est aussi, comme vous l'avez rappelé, Jennifer Hartsmith, une pâtisserie avec des matières premières très sélectionnées, moins raffinées, très souvent bio, de saison évidemment. Vous êtes franco-australienne, naturopathe de formation. Vous nous rappelez juste quelles prestations vous allez effectuer juste après le disque ?
La tarte au coin.
Très bien.
De la crème crue.
Avec de la crème crue. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre cette démo pâtissière en vidéo sur franceinter.fr. Juste après notre petite pause musicale. Bah tiens, justement, un petit coup de musique naturelle, organique, sans aucun additif d'instrument. Oui, ça a été choisi par Djoubacar. Alani n'utilise, attention, que les sons de sa bouche pour nous chanter Papa. Bon. La pâtisserie naturelle au menu dont on va déguster. Nous sommes en direct devant une belle brochette de bec sucré. Ça va ? Merci d'être là. Vous allez assister à un petit happening culinaire. C'est Jennifer Hartsmith qui est en place derrière le plan de travail que nous avons improvisé, aménagé.
Voilà, tout à fait.
Pour nous faire cette fameuse tarte au coin. Alors là, on parle vraiment pour le coup d'un fruit de saison, très automnal.
Voilà, ouais. Et le coin, moi je l'aime beaucoup, mais plus en tant que naturopathe, parce que le coin c'est un fruit qui est extrêmement riche en pectine. Et on peut l'utiliser justement, cette fameuse pectine naturelle, même pour napper les tartes. Ou ce genre de choses, mais il a vraiment ce côté un peu floral et c'est vraiment le fruit qui annonce les premiers froids. Il est vraiment super.
Pâtissier naturopathe, c'est quand même pas banal. Vous avez suivi une double formation en quelque sorte.
Je pense, on peut le dire.
Mais sauf que vous réussissez justement à réconcilier les deux disciplines. Une définition de la naturopathie.
Alors la naturopathie, en fait, c'est de l'hygiène de vie, c'est-à-dire c'est vraiment un accompagnateur de santé, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre de l'hygiène de vie, enfin pour l'optimiser, cette fameuse hygiène de vie, et l'idée c'est de faire de la santé, d'aller dans la voie de la santé, donc de la prévention, donc on revoit l'assiette, on revoit aussi les rythmes de vie, les exercices physiques, le lien aussi avec la nature, à peu près tout ça en fait.
Alors on ne va pas vendre à nos auditeurs et nos téléspectateurs qu'on peut faire une pâtisserie
non,
santé.
Non, ce n'est pas possible.
La pâtisserie
alors,
reste non. du sucre,
voilà,
n'est-ce pas, Hugues? Vous en mettez encore un peu, rassurez-moi.
Non, il faut que ça assaisonne le sucre. Après, si, c'est comme l'alcool. Si on veut pas boire de, enfin, si on veut pas d'alcool, on boit pas de vin. Si on veut pas de sucre, on mange pas de gâteau.
La pâtisserie ne peut pas être saine, c'est pas possible.
Sachant que les taux de sucre, notamment depuis Gaston Lenôtre, les années 70, ont considérablement diminué dans notre pâtisserie.
Mais le pouvoir sucrant des sucres récents, c'est-à-dire vraiment les sucres ultra raffinés, n'est pas le même que les sucres complets d'avant aussi.
Parce qu'il y a sucre et sucre.
Il y a sucre et sucre. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que naturopathe, c'est la qualité des sucres. C'est pas de dire moins de sucre. C'est quel sucre on utilise en fait. Le sucre blanc, c'est plus blanc que blanc. C'est ce côté ultra raffiné du sucre qu'on utilise comme si c'était quelque chose de normal. Mais c'est ce qu'on appelle une calorie vide. Il n'y a aucun intérêt pour l'organisme. C'est pro-inflammatoire, déminéralisant. Ça n'apporte rien du tout.
Vous utilisez donc des sucres moins raffinés, voire naturels. Alors, on peut parler aussi de sucre complet.
Complet, exactement. Moi, en fait, en naturopathie, on n'aime pas spécialement les sucres rajoutés. On les aime pas du tout même. Mais par contre, un sucre complet, quand on l'assume, quand on le consomme en conscience dans une pâtisserie, il a le mérite de ne pas avoir été transformé, donc dépourvu de tout ce qui va être les oligo-éléments, les minéraux et toutes ces choses-là. En fait, moins on transforme les produits, l'ingrédient, et mieux c'est. Et le goût aussi est différent, forcément.
Hugues Pouget, les grands pâtissiers en général se méfient des sucres complets qui ont des arômes un peu réglissés, etc. Ouais. Parce que, justement, d'abord, ils influencent, ils jouent sur la couleur du gâteau et souvent, ça apporte des teintes un peu marronnasses.
Pas très... Une meringue n'est pas possible, par exemple.
Ouais. Non, mais après, on s'en méfie, oui et non. Disons que c'est vrai que techniquement, pour faire un certain nombre de choses, par exemple, avec le sucre de coco, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Techniquement, c'est pas possible. Il faut pas l'oublier, ça aussi. Donc,
bien sûr.
Après, il faut pas tomber dans l'extrême et dans le côté ayatollah de la chose. Moi, j'utilise du sucre blanc pour certaines choses et dès qu'on peut, on va utiliser un sucre de coco, on va utiliser du sucre roux, on va utiliser du moscovado, des choses comme ça. Et pareil, c'est parce qu'on va aller chercher quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a tendance vraiment à désucrer nos gâteaux.
Très bien. Jennifer a déjà attaqué. Racontez-nous ce que vous faites. Alors, le micro est un peu haut pour vous. On peut le décrire. Vous avez donc un fond de tarte. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez fait. Et avec une poche à douille, vous le recouvrez d'une espèce de serpentin, littéralement d'une compotée de coin.
En fait, mon fond de tarte, déjà, est réalisé à base d'une farine de sarrasin et de riz.
Très bien.
Parce que moi, je suis pas forcément anti-gluten. J'ai pas de problème avec le gluten dans la mesure où on utilise des farines anciennes de qualité. Avec un taux d'acidité parfois vraiment intéressant, je trouve, dans les cakes ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai que je trouve qu'on délaisse aussi ces autres farines qui poussent en France. Enfin, je veux dire, le sarrasin, on en trouve en Bretagne. C'est une farine qui est merveilleuse d'un point de vue santé.
Qui apporte
Pour le coup, elle n'a pas de gluten.
Un goût rustique, une petite amertume excellente.
Bien sûr, les Bretons savent très bien l'utiliser. Pour le coup, elle n'a pas de gluten, donc tant mieux. Nous, en tant que naturopathe, on est ravis. Mais elle a vraiment cette caractéristique d'amener aussi une odeur un peu torréfiée.
On peut retrouver votre fabuleuse pâte sucrée sur franceinter.fr, à la page on va déguster, et bien entendu aussi sur ce livre qui va faire du bruit et qui va intéresser et inspirer beaucoup de gens qui veulent une pâtisserie plus saine, à pratiquer notamment avec les enfants à la maison. Pâtisserie naturelle, les recettes d'une pâtissière naturopathe chez Marabout, avec de très très jolies photos et un stylisme assuré par quelqu'un qui est là et que je connais bien, c'est Émilie Franzo, voilà, qui fait toujours un très beau travail visuel sur les livres chez Marabout.
Et donc, en fait,
votre pâte, il y a du beurre, il y a donc différentes farines.
Voilà, c'est vrai que moi, c'est pareil. Je n'exclus rien dans la mesure où, dans une pâte à tarte, j'utilise du beurre. J'utilise un beurre de qualité, bio. Et j'aime beaucoup utiliser la farine de sarrasin et de riz dans la pâte à tarte parce que je trouve que ça amène un côté, justement, croustillant qui est plus intéressant que la farine de blé. Mm-hmm. Donc, s'il y a bien un endroit où on peut se passer de la farine de blé, c'est dans les pâtes à tarte, je trouve. Maintenant, c'est vrai que dans d'autres préparations, elles n'ont pas leur place.
Bien sûr.
L'idée, c'est ça.
Donc, vous avez fait un fond de tarte. C'est quel diamètre, à peu près?
À peu près 18 cm.
Qui a donc été précuit à vide.
Voilà, c'est ça. On a fait un fonçage. C'est vrai que la pâtisserie française, elle a aussi ce côté hyper technique, hyper chouette. Faire un bon fonçage à la française, c'est chouette aussi. Voilà. Donc là, on a le fond de tarte qui a été déjà précuit. Moi, j'aime bien pousser un peu la cuisson, justement, pour vraiment se faire sortir les goûts des farines un peu torréfiées, du sarrasin et toutes ces choses-là. Plus c'est cuit, le sarrasin est mieux sert. Mm-hmm. C'est vraiment bon. Et comme il y a du beurre, bah, c'est pareil. Hein. Nous, en naturopathie, on n'aime pas quand on cuit trop le beurre, justement, parce que pour la santé, c'est pas intéressant. Mais en pâtisserie, on adore ça. C'est ce côté réaction de Maillard, quoi. Enfin, c'est vraiment le côté caramélisé. Ensuite, j'ai chablonné, donc j'ai pré-cuit cette tarte.
Du verbe chablonner, premier groupe.
Voilà, chablonner, premier groupe, avec du chocolat blanc. C'est-à-dire qu'une fois que la pâte à tarte a été cuite, on a, avec un passon, en fait, je suis venue recouvrir le fond pour éviter que quand je poche ma composition de coin, elles ne viennent humidifier le fond de tarte.
Donc là, vous faites vraiment de la maçonnerie, vous étanchez, vous étanchéisez.
La pâtisserie, c'est de la maçonnerie.
Oui, c'est ça. C'est et ensuite, vous avez donc recouvert d'une purée de coin en un mot vraiment, parce que la recette est en ligne. Mais comment on fait cette purée de coin?
En fait, moi, les purées de coin, ce que je fais, je vraiment à la saison, j'ai les cagettes de coin, le coin idéalement sauvage, le bien poilu comme il faut, on le dépoile, tout ça, et à partir de là on fait vraiment des bocaux. Alors on peut faire justement des purées de...
Comment on dépoile un coin?
Alors il faut le frotter, il faut vraiment le frotter. Mais par contre, si on n'a pas des coins sauvages, si on n'a pas de coins sauvages, on peut prendre des coins du commerce, mais ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas le même parfum de rose, quoi. C'est pas les mêmes. Donc d'ailleurs, pour être transparente avec vous, j'ai pas de coin poilu aujourd'hui. Voilà, c'est du coin plutôt du commerce que j'ai trouvé.
Mais pas problème.
Voilà. Mais en fait, l'intérêt, c'est aussi de conserver les fruits et les légumes qu'on peut réutiliser peut-être un peu plus longtemps. Mais là, notamment, on peut faire des bocaux sympas. Donc là, elle a été cuite dans un sirop. Le coin a été coupé en morceaux, cuit dans un sirop. Et l'idéal, c'est de le faire plusieurs jours avant, voire plusieurs semaines, parce qu'il a vraiment le temps d'infuser et d'avoir ce goût un peu...
Et cette compote est mixée, en revanche.
Exactement. Et passer dans un chinois pour éviter d'avoir les petits grains.
Oui, c'est un peu granuleux, voilà, la texture du coin.
C'est très dur d'avoir cette texture vraiment lisse dans le coin. Donc plus on arrive à la filtrer dans le chinois, et mieux c'est.
Très bien. Alors là, vous êtes armé d'une poche à douille contenant une préparation blanche. De quoi
tout
s'agit-il?
C'est de la crème crue.
Oui, très bien.
Tout à fait.
Alors, crème crue, on n'est pas dans une crème pasteurisée, on est précisément crème qu'on pourrait qualifier de vivante.
Alors moi, dans l'idéal, j'essaye d'éviter quand même, de par mon approche naturelle, j'essaye d'éviter vraiment les produits laitiers au maximum. Mais par contre, quitte à en prendre, pareil, on prend de la qualité, on y va franchement. Et j'aime beaucoup aussi, on verra ça plus tard, mais le lait ribot, les laits qui sont notamment lactofermentés, où il y a beaucoup moins de lactose, beaucoup moins de caséine.
Et beaucoup plus de probiotiques, évidemment, et plein
du
de
vivant,
bonnes petites
du
bactéries.
Du vivant, c'est ce qu'on aime.
Il est tout sourire, notre ami
Arnaud.
On aime le
vivant.
Vivant, que voulez-vous.
Il faut du vivant dans la pâtisserie, c'est ça qu'il faut.
Alors comment vous y prenez, Jennifer, avec cette poche à douille?
En fait, là, je vais composer comme un jardin. Voilà.
Un jardin avec des petits...
Avec cette fameuse crème crue.
C'est ça.
Je répartis un petit peu partout. Je me dis, tiens,
on vous laisse. On vous laisse précisément finir de dresser cette tarte que va goûter une auditrice dans un instant qui nous a rejoint sur le plateau dont on va déguster. Je reconnais Rebecca.
Bonjour.
Bec sucré devant l'éternel. Attention, pressons Jennifer, parce que je vous assurais que Rebecca a des papilles bien en pointe. Et en attendant, bah évidemment, on va se faire un petit coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Figurez-vous que ce matin, en déchiffrant mon tube de crème illuminatrice pour peau fine et délicate, c'est un problème. Parcourant donc cette prose issue des esprits les plus affûtés du marketing, je tombe sur cette allégation, 98% d'origine naturelle. Ça perd l'hypopète. Alors les 2% qui sont pas d'origine naturelle, ils sont de quelle origine? Ils sont d'origine surnaturelle? Jusqu'à présent, voyez-vous, j'ai toujours considéré que tout ce qui était présent sur Terre était d'origine naturelle. D'origine seulement. Car nous transformons tout, et voilà bien longtemps qu'il n'y a plus rien de naturel. Depuis le néolithique, depuis qu'on n'est plus préleveur mais producteur, tout ce qu'on mange est culturel. Transformer une céréale en pain ou en bière, c'est culturel. Boire le lait d'une vache, c'est naturel, mais uniquement pour le veau. Avant, on cueillait, on chassait, on tétait maman, on mangeait naturellement. Ou presque. Car le mammouth, faut pas croire, fallait le maturer un poil, le dénaturer en somme, pour pouvoir déglutir un steak sans le mastiquer pendant 3 semaines. Et dès lors qu'on maîtrise le feu, bonjour la cuisson, la cuisine, le cuistot et toute la culture qui en découle. Et la nèfle. Quoi de plus naturel que la nèfle ? Mais décider dans quel état tu la manges, c'est déjà culinaire. Le jour où de sa menotte velue, Lucie cueillit délicatement la nèfle et sciemment la laissa pourrir. Ce jour-là, Lucie inventa la confiserie. Et peut-être aussi le torboyau, l'ivresse et les chansons. Enfin bon, c'est pas sûr. Hélas, l'humain n'a jamais arrêté de complexifier les transformations, et ce, jusqu'à désincarner totalement le produit. Elle est où la bête dans la boulette de supérette ? Où est l'orange dans l'orangina ? La coca dans le cola ? Tous ces trucs tripotés un max, transformés à mort, maquillés comme des carrés d'as, ne sont que des calories vides, insipides, zéro flore, zéro vie, zéro valeur. Que faire alors ? Ben, dépouillons autant qu'on peut nos aliments de leurs artifices, bannissons, exhausteurs, texturants, qui singent le naturel et sont aussi absurdes que un déguisement de nudiste, tiens par exemple. Conservons seulement les transformations archaïques, qui subliment le brut et le rendent digeste, la cuisson, la maturation, la fermentation. Retrouvons le goût dans son plus simple appareil, sortons la vérité naturelle de son puits culturel. Mangeons vivant et restons vivants. Et tiens, puisque je parle du vivant, je vous raconte une anecdote. Dans la salade en sachet Plastoc de marque Bip, achetée faute de mieux dimanche dernier chez Bip, j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver dans ma roquette en plastifié ? Une chenille, bien verte, bien frétillante. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, le vivant revient. Il commence à réaliser chez Bip et chez les autres que les insecticides, bof, finalement. C'est la chenille qui redémarre. Comme chantait au siècle dernier la bande à Basile, ces troubadours visionnaires, et on va leur laisser le mot de la fin.
Plus fort.
Il a osé. Il a osé. Bravo le nono.
Merci, vous êtes bien brave.
Vous avez osé la chenille qui redémarre ? Est-ce qu'elle redémarre vraiment cette chenille ?
Comment ?
Est-ce qu'elle redémarre vraiment cette
chenille ? Oui, je pense que oui, là, on s'en occupe, hein, mais le vivant revient de plus en plus dans nos assiettes, via même les grosses marques d'agroalimentaires. Pourquoi ? Parce que ces gens-là aussi ont compris que leur survie économique même, à eux, dépend de leur capacité à prendre ces problématiques en main. Et donc, c'est en route, plus vite qu'on peut, hein, mais on est au temps agricole. Mais ça marche.
Merci voilà. Arnaud Daguin, en tout cas, pour ce coup de lame bien affûté. Ça y est, Jennifer Hartsmith a terminé sa tarte. Elle est sous les yeux de Rebecca. On rappelle que c'est une tarte avec une jolie pâte faite avec à la fois du sarrasin, du blé, qu'il y a une compotée de coing, quelques tranches de coing également que j'imagine assez fondantes. Vous avez laissé la peau. C'est dans la peau aussi qu'il y a les nutriments. Et puis, il y a cette crème crue. Par gros boutons comme ça posés à la poche à douille. Alors Rebecca, j'adore les auditeurs qui parlent la bouche pleine.
C'est excellent, c'est vraiment excellent. Moi j'adore le coing et je trouve qu'on le ressent. C'est ça en fait qui arrive, c'est le coing frais, cuit mais bon.
La fraîcheur aussi.
Ouais. Et la crème crue, j'avais déjà goûté quelques fois, mais là ça fait, on va dire, ça prend pas le pas, ça va vraiment. Belle alliance et j'adore le sarrasin, ça c'est. Non, c'est excellent.
Vous avez l'air conquise.
Merci.
Est-ce que la pâte a cette promesse d'être rester croustillante justement avec...
Avec le chablonnage.
Avec le chablonnage.
C'est la clé de tout pâtissier, oui.
Rebecca, vous pratiquez la pâtisserie à la maison ?
Je suis pâtissière.
Vous êtes pâtissière.
Pâtissière.
Et votre réflexion concernant justement le choix des ingrédients, les additifs dans la pâtisserie, c'est une question que vous vous posez, qui vous concerne ?
Ça, je pense que ça me concerne, mais ça devrait tous nous concerner.
Ouais,
voilà, c'est...
En fait, c'est pas quelque chose de normal, il faut l'accepter. Voilà.
Arnaud Daguin,
est-ce que vous permettez au vieux cuistot de donner un petit truc à propos des coings ?
Bien sûr.
Quand on fait de la conserve de coings, il y a un truc que j'ai essayé avec mon vieux four à pain, mais ça marche dans tous les fours. Vous faites rôtir les coings, couper en deux, entiers, papelés, un peu brossés. Et vous les faites colorer juste ce qu'il faut, qu'ils soient un peu cuits, et vous faites vos conserves à partir de ça.
Non.
Ça change tout.
C'est-à-dire ensuite donc on les met en conserve.
On les rôtit, on les colore, on les caramélise un peu et après on les met en conserve comme ça. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses.
On obtient notamment des goûts un peu caramélisés.
Oui, des arômes secondaires, des caramélisations, le maillard dont on parlait tout à l'heure. Mmh.
Ça vous inspire ou pas, Yves Pouget?
Complètement, complètement. Mais en fait, avant, le métier de pâtissier n'existait pas avant. C'était les cuisiniers qui faisaient les desserts. On parle d'Escoffier qui a fait beaucoup de créations, ou c'était les boulangers qui faisaient les desserts, comme le Paris-Brest, etc. Il ne faut pas l'oublier que la pâtisserie est venue... Aujourd'hui, le métier de pur pâtissier est presque un métier assez récent, malgré tout.
Vous-même, vous venez, Hugues Pouget, de l'univers de la cuisine, puisque vous avez travaillé avec
Guy Savoie.
Moi,
j'étais pas en cuisine, j'étais en pâtisserie. Mais c'est vrai que l'influence a été très forte dans mon travail, d'ailleurs, quand j'ai voulu ouvrir ma maison, c'est pour ça que j'ai voulu garder l'âme de travail que j'avais chez Guy Savoie, c'est-à-dire faire, je me répète, mais une pâtisserie de marché. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Guy Savoie. Un jour, il vient me voir en janvier, il me dit, ils sont où les nouveaux desserts? Alors, j'ai les nouveaux desserts, j'ai dit, mais la carte a été faite, et tout. Il dit, ben non, Laurent Changuine arrive, on fait un dessert à Laurent Changuine. Et en fait, vraiment, c'était, en fait, les cuisiniers ont eu vraiment ce sens des saisons bien avant nous, les pâtissiers.
Ça fait longtemps.
Il y a la saison pour la Saint-Jacques, il y a la saison du fromage, le Mont d'Or, etc. Et en pâtisserie, il y a aussi des saisons puisque, il y a les saisons des fruits.
La pâtisserie française met un peu de temps à bouger tout de même.
Écoutez, je sais pas si
j'ai un peu qu'il y a une sorte d'impunité ou une dérogation accordée aux pâtissiers qui ne bouge pas forcément aussi vite que les autres artisans de bouche.
François Régis, vous allez un peu fort.
Non, je connais même des gourmets assez écolos qui sont pas très choqués de voir en plein mois de décembre dans la vitrine de nos grands pâtissiers des tartes aux framboises ou aux fraises.
Parce que c'est des purées de fruits en fait. Parce qu'il y a cette histoire.
Que des purées de fruits, il y a des fruits frais qui ont fait un peu de kilomètres.
Comment dire, c'est. Nous, on a choisi vraiment cette pâtisserie de marché, mais c'est vrai que, en fait, moi, je me suis souvent, quand même, ça m'a bien des fois effleuré l'esprit, parce que nous, il faut pas oublier qu'on est aussi des commerçants, et que quand il y a un client qui pousse notre porte et qui nous demande une tarte aux fraises ou une tarte aux framboises, vous la faites pas, au début, nous, il a fallu l'expliquer, et au début, je me suis dit, est-ce que je me trompe pas, puisqu'on loupe des ventes. Et malgré tout, il y a une réalité économique, etc., et il y a un côté un petit peu ambivalent, et on hésite, on fait pas, on veut faire plaisir à nos clients, on éduque nos clients, et en fait, c'est un peu un paradoxe. Nous, on a vraiment choisi de le faire et vraiment, c'est un choix parce que je peux vous assurer.
Mais donc, ça veut dire que c'est possible. Vous êtes en train de défendre vos confrères.
Non, je ne les défends pas. Je ne les défends pas. Je dis que.
Et les cuisiniers le font, en fait.
Je dis qu'il faut. Nous, on le fait, mais après, peut-être que le petit artisan du coin, etc., ne peut pas le faire, peut-être, et qui veut le. Voilà. Mais en tout cas, il faut aussi éduquer nos clients. Il faut les éduquer. Aujourd'hui, on va dans les supermarchés. Alors, les supermarchés font aussi des efforts, mais on peut trouver de tout toute l'année. Et en fait, les gens sont bercés dans tout ça, quoi.
Oui, mais ça bouge.
La preuve, c'est que
depuis le début, vous faites justement des produits, des créations, des tartes avec des micro-saisons. La Mirabelle, c'est un mois. Figue, c'est un mois.
D'ailleurs, mon premier livre s'appelait Hugo Victor, les 5 saisons. Alors, en pâtisserie, il y a une période qui est très compliquée. C'est de mi-mars à fin avril. En fait, on est dans la fin des agrumes. Il n'y a plus de citron de menton. Il n'y a plus de clémentine.
Et là, les pâtissiers sont un peu embêtés.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas encore les fruits rouges. Ou en tout cas, les toutes premières fraises coûtent une fortune. Et en fait, quand j'écris mon livre, les 5 saisons, pardon.
Les légumes,
non, mais il y a aussi plein de parfums comme
les fruits secs.
Les fruits secs, vous me l'enlevez de la bouche. Pardon, non, pas de problème. Il y a la pistache, il y a le café, il y a tous ces ingrédients avec lesquels on peut faire des desserts et tout va bien. On n'est pas obligé au mois de février de faire des tartes aux fraises.
Je sens qu'on va finir cette tarte coin qu'on aimerait bien goûter, signée Jennifer Hart Smith. Vous avez également dressé une tarte que l'on va goûter ensemble, Hugues Pouget, et j'aime beaucoup, rien que son nom, c'est magnifique.
Alors, mi figue, mi raisin. C'est un peu un clin d'œil, parce que c'est plutôt péjoratif comme expression, mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai utilisé, vous voyez, c'est une tarte qui est colorée, qui est très belle. J'ai utilisé des figues de Solliès, et un des seuls fruits à hausser en France depuis 2006.
Absolument, dans le Var.
Près de chez moi. Et du chasselas, du muscat, une petite marmelade de figues, et c'est sur une pâte sablée. Alors, avec cette fois-ci du blé, mais aussi croustillant, et de la crème d'amande.
Absolument, et la recette est en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Dans un instant, c'est justement vous, Hugues Pouget. C'est à votre tour de passer derrière le plan de travail pour monter une pavlova au marron. On peut déjà dire que c'est la fille illégitime d'une pavlova qui aurait peut-être flotté avec un Mont Blanc.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Est-ce que Philippe Catherine prend de la naturelle ou de la synthétique à votre avis? En tout cas, il chante Stone avec toi sur France Inter.
J'aime être Stone avec toi, j'aime être Stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique, qui veulent te manger. Ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien. Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien?
Une pavlova au marron, oui. Dans On va déguster, nous sommes en direct devant un petit public de gourmets qui va se jeter dans pas longtemps sur toutes les créations qui peuplent notre, littéralement notre studio, le 621. Il y en a absolument partout, des fruits de saison, des cakes, des cookies et cette fameuse pavlova qui est déjà dressée. J'observe deux coques de meringue.
Oui. En fait, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire un dessert sans béquilles techniques, sans additifs,
sans gélatine. Vous n'en utilisez pas beaucoup.
Très peu, le moins possible. Et en fait, il faut pas oublier qu'en fait, tout à l'heure, en préparant l'émission, on se disait, mais c'est quoi la pâtisserie naturelle? Mais c'est peut-être la pâtisserie d'il y a 50 ans ou d'il y a 60 ans. C'est quand, sur les vieux desserts, il n'y avait pas tous ces émulsifiants, ces gélifiants, etc. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer vraiment la pavlova ou un Mont Blanc. C'est un mix entre, ma recette, c'est un mix entre une pavlova et un Mont Blanc. C'est de la meringue qu'on a cuite, qu'on a fait sécher. La meringue, c'est du blanc d'œuf et du sucre, c'est tout. On la cuit, on la fait sécher.
Pour obtenir une espèce de calice, de bol.
Coque, comme un bol. Donc, on la cuit à l'envers. Et on, comme ça, à l'intérieur de ce creux, on peut mettre notre chantilly à la vanille. Donc là, c'est pas de la crème crue, mais c'est de la crème. C'est une crème qui vient de la coopérative Pampli. Donc c'est 75 agriculteurs. On sait que les vaches ne mangent que de l'herbe. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pas de la crème industrielle. Et alors j'ai mis une petite pastille de chocolat parce qu'on veut quand même faire un dessert contemporain, un joli dessert. Et c'est possible de faire un dessert contemporain sans poudre de perlimpinpin.
Donc là, on parle d'un petit, encore une fois, d'un petit bol de meringue de taille individuelle. Vous l'avez rempli de crème montée à la chantilly, un petit palet de chocolat au lait pour recouvrir l'ensemble. Et là,
on vient poser les vermicelles de marron. Et les vermicelles de marron, c'est de la pâte de marron et de la crème de marron, tout simplement. Et on vient déposer dessus quelques marrons confits, glacés, qui viennent agrémenter le dessert et le décorer.
J'ai appris que dans certains marrons glacés français, c'est une grande tradition dans notre pays, le confisage des marrons. Il peut y avoir autre chose que du sucre pour conserver.
En fait, dans beaucoup de fruits confits, il y a des sulfites aussi, parce que c'est un moyen de conserver, un peu comme dans le vin. Nous, on fait attention, on prend des marrons glacés sans sulfites. Et en fait, dans beaucoup de fruits confits, il y a des sulfites.
Et vous, il n'y en a pas?
Dans ceux-là, non, absolument. Ouais.
Et là, vous avez cherché des fruits confits ou demandé à tes artisans d'en faire précisément sans ces antioxydants.
Avec notre fournisseur de marron, on a réussi à trouver. Et aujourd'hui, on cherche vraiment des fruits confits sans sulfite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on s'est mis à rechercher des vieux ingrédients, et on collabore vraiment. Là, sur la table, il y a des fraises. Alors, vous pourriez être surpris d'avoir des fraises fin septembre. En fait, on appelle ça des fraises des remontantes. Et en fait, ce sont pas des pieds de fraises de saison, parce qu'un pied de fraise de saison, le pied offre de la fraise une fois, deux fois, et après on l'arrache. Là, ce sont des pieds qui vont avoir une durée de vie de 2-3 ans. Et en fait, c'est des pieds de fraises qui vont fournir des fraises vraiment pendant toute la saison, c'est-à-dire vraiment plutôt fin mai d'ailleurs, jusqu'à fin septembre. Et donc là, on est à Cortras, on a 1h30 au sud de Paris.
Pas très loin de Montargis.
Pas très loin de Montargis. Et en fait, il y a deux sortes de fraises. Là, c'est de l'anaïs et de la séraphine. Et je travaille avec un maraîcher qui s'appelle Aurélien Lombard, et c'est un hectare, et c'est à l'ancienne, c'est de la pleine terre. Et
on ne demande même pas s'il y a des produits chimiques sur les fruits.
Il n'y a absolument rien.
Il n'y a absolument rien. Notre cobaye consentant s'appelle comment pour goûter cette pavlova au marron?
Je m'appelle Vincent.
Bonjour Vincent.
Je suis plus que consentant. Il est
enthousiaste.
De la meringue. Épanoui. Entre la meringue, le marron glacé et le chocolat au lait, je pense qu'il y a peu de choses qui pouvaient me convaincre plus.
Oui.
L'ensemble pourrait être très sucré, parce que c'est que des choses très sucrées, mais c'est assez léger. Le marron est très doux, le petit opercule de chocolat, ça apporte le craquant. La meringue est très légère. Non, c'est une vraie réussite. Ça se mange comme ça. J'ai pas fini.
La saison du marron s'annonce dans quelques jours.
C'est pas facile à manger, par contre, mais ça se mange très bien.
Il est pro au micro, Vincent. Merci beaucoup pour votre intervention très pertinente. Un grand merci. Et merci Pouget pour ce dessert qui prouve qu'on peut faire des choses tout à fait naturelles et de saison, qui ont même une très belle allure un peu façon haute pâtisserie, mais on peut le faire assez simplement à la maison. Le marron, ça vous parle ou pas, Jennifer?
Oui, complètement.
Vous qui êtes très attachée aux saisons.
En plus, il faut savoir que le marron, on utilise même pas 30% en France. C'est en Ardèche ou en Aveyron, dans ces régions-là, le marron pourrit sur le sol et voilà, ça fait partie de ces fruits qui sont chez nous, qui sont merveilleux et qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser à son haut potentiel, vraiment.
Très bien, dans votre livre, il y a un cheesecake végétal à la rose qu'on va goûter, des sablés au sarrasin avec des fleurs de saison, un cake citron au lait ribot, c'est intéressant le lait ribot, c'est un lait fermenté avec une vraie belle richesse bactériologique.
Tout à fait, il y a des probiotiques, c'est un lait qui est vivant, et il y a effectivement ce côté beaucoup moins riche en lactose, beaucoup plus digeste en fait. Beaucoup de gens qui vont par exemple ne pas pouvoir supporter les produits laitiers, celui-là il va être beaucoup plus facile.
Il est ici?
Oui, c'est ce. Enfin, il a été découpé là-bas.
Bon, il faut m'en passer une tranche là parce que j'en vois de tous les côtés, mais ça fait vraiment saliver. Déborah Dupont, c'est à votre tour.
On va déguster. Sur France Inter.
Déborah Dupont, qui est la patronne de la librairie gourmande à Paris, est-ce que vous nous confirmez, Déborah, que le créneau de la pâtisserie naturelle, c'est un filon qu'exploitent les éditeurs?
Alors, historiquement, ça fait quelques années maintenant qu'on a des livres sur le sujet. Ça avait commencé avec des éditeurs un peu spécialisés dans le bio, dans le végétarisme, dans les cuisines un peu alternatives. Je pense au Gâteau chic et nature de Linda Louis à la plage, ou aussi au livre de Marie Tchoka, notamment Pâtisserie bio chez Terre Vivante.
Oui, c'est vrai.
Et puis plus récemment, on avait eu, d'ailleurs je l'avais présenté dans cette émission, Le cuisiner en couleur de Sandrine Costantino. Aux éditions La Plage, où je vous avais fait un petit sablé noir au sésame.
Oui, la recette est encore en ligne sur le site de l'émission.
Donc c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on assaillait des éditeurs plus grand public, comme donc les éditions Marabout pour le livre de Jennifer, ou les éditions Larousse pour le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'intéressent maintenant au sujet et qui ont compris qu'effectivement, on devait remettre du naturel et puis travailler d'autres trucs que le sucre blanc, d'autres farines que la farine T55 blanche raffinée.
Alors justement, ce livre?
C'est décidé, je m'y mets. Voilà, c'est décidé, je m'y mets. En fait, c'est le nom d'une collection qui est sortie chez Larousse, il y a quelques mois maintenant, où ils ont fait plusieurs opus. Alors, ça ressemble à un magazine. C'est une prise en main assez intéressante. Ça commence d'ailleurs par une quarantaine de pages d'explications sur les produits, d'explications techniques. Et là, celui que je vous présente aujourd'hui s'appelle « Mes petits-déj et goûter mini-sucre ». Donc l'idée, c'est vraiment de se réapproprier ces deux moments sucrés et gourmands de la journée, le petit-déjeuner et le goûter, et de faire du fait maison. Parce que tout simplement, et ça me ramène à une conversation que j'avais eue il y a au moins une dizaine d'années avec Estherelle Payani. où on parlait...
Qui vient régulièrement à ce micro aussi, voilà. Évidemment.
Nos enfants étaient petits à l'époque et elle m'avait dit, tu sais, si tu regardes en fait les packaging et les compositions nutritionnelles des céréales de petit déjeuner, plus c'est attrayant pour l'enfant, plus la composition est dégueulasse. Et c'est vrai, c'est assez flagrant, c'est la même chose pour les gâteaux. Et là, on se rend compte, en fait, avec ce livre qui propose 45 recettes sucrées comme salées, qu'on peut vraiment faire très facilement à la maison de quoi nourrir ses enfants, ou enfin les grands, hein, parce que franchement, ça n'a pas d'âge pour ça, avec des recettes sympas. Donc là, moi, ce que je vous ai fait aujourd'hui, vous l'avez en version individuelle, ce sont des cobblers. Donc le cobbler, en fait, c'est une pâtisserie d'origine américaine. C'est la version, en fait, US du crumble.
C'est ça, voilà, c'est bon.
C'est bon.
C'est tout simple en plus.
Il y a de la vanille, je devine des mirabelles.
Oui, bah, c'est la fin de la saison des mirabelles.
Des amandes, oléagineux.
Amandes, pommes. Donc vraiment une recette toute simple. Vous prenez 500 grammes de mirabelles, vous les dénoyautez, vous les coupez en deux.
Ça régale.
Vous prenez 4 pommes, j'ai pris de la pomme qui tient bien la cuisson, donc une Canada, ou une Boscop. Vous les coupez en petits cubes, vous rajoutez une gousse de vanille, les grains d'une gousse de vanille. 10 minutes au four dans un plat. Pendant ce temps-là, vous préparez votre pâte. La pâte, c'est 90 g d'amandes que vous allez hacher grossièrement, 70 g de farine blanche et 30 g de farine complète, 50 g de sucre de canne complet, donc plein de nutriments, une pincée de fleur de sel, 100 g de beurre froid. Vous amalgamez, ça fait une sorte de, justement de pâte à crumble. Et pour faire la pâte à cobbler, en fait, vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'eau. Ce qui va vous permettre d'avoir une pâte que vous allez pouvoir façonner en petits disques. Vous le posez sur les fruits, vous mettez un quart d'heure au four à 210 degrés, c'est fait.
C'est délicieux. C'est bon,
c'est très bon.
Ouais, Jennifer, c'est... Bon. Vraiment, c'est... Il y a tout, il y a le croquant, il y a les fruits de saison, c'est sucré mais pas trop, il y a le côté caramel des fruits, du sucre complet aussi.
Et franchement, ça se fait, vous avez au total 25 minutes de cuisson et 10 minutes de préparation, donc c'est vraiment, je l'ai fait ce matin à 8h avant de venir.
Un vrai régal, franchement, c'est délicieux et on va se finir ça là aussi dans des petits moules individuels.
J'en ai prévu plein pour le public.
Je vois ça et d'ailleurs, ils sont en train de zioter. En fait, je pensais qu'ils me regardaient, mais non, pas du tout. C'est le plateau de Cobbler. J'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, Jennifer Hartsmith, que le home baking que vous pratiquez, pour employer une expression anglo-saxonne, puisque oui, c'est la façon de faire de la pâtisserie ou de la boulangerie, on mélange un peu les deux,
oui,
dans les pays anglo-saxons, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, a un peu poussé la pâtisserie française vers une forme de naturalité.
Oui, complètement. Il y a des pâtissiers qui le font déjà un petit peu. Il y a Benoît Castel qui le fait, qui fait des choses super, justement. Mais je pense que ça doit vraiment venir d'une démarche personnelle. En fait, comme vous disiez, c'est un métier qui n'est pas si vieux que ça. Et qui a aussi beaucoup évolué avec toute une forme de révolution industrielle, y compris justement sur l'approvisionnement des ingrédients. Et je pense justement que, comme vous disiez, revenir à la tradition, ça veut aussi dire aller piquer du levain chez le boulanger pour, pourquoi pas,
utiliser des matières vivantes.
C'est aussi vieux que le four à pain, ces activités-là. La pâtisserie de boulange, c'est la pâtisserie de boulange. Et puis il y avait la pâtisserie de gnoleux. La pâtisserie de gnoleux, c'était, pourquoi les gnoleux? Parce que c'était les cuisiniers qui avaient accès aux liqueurs non dénaturées.
Mais il est vrai que voilà, la pâtisserie française avait quand même légèrement dérivé vers la prouesse architecturale, vers le gâteau design et flashy.
Si avec elle.
Oui, bien sûr.
Elle rayonne particulièrement, même en ce moment. Enfin, moi, je le vois aussi en Australie ou à l'étranger. Elle a cette espèce de... Enfin, elle impressionne visuellement. Mais il y a aussi ce côté, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le manger. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça que les pâtissiers ont envie de continuer?
Et puis, à mon avis, la pâtisserie française, pour continuer à rayonner, doit justement... avec certaines valeurs, voilà, écologiques, sanitaires.
L'enjeu écologique, c'est pas une tendance, c'est quelque chose qui est, c'est vital. Tous les métiers devraient se poser cette question-là. La pâtisserie en fait partie. C'est encore plus parce que c'est un métier de bouche et que ça intègre tout le monde.
Merci beaucoup. Il y a une surprise qui a atterri sur le plateau dont on va déguster, signée d'un jeune Léonard, un jeune auditeur, qui nous a fait des cookies qu'il considère comme naturels. On les a autour du plateau. Je distingue des noisettes, des pépites de chocolat. C'est bien ça?
C'est ça.
Alors, comment vous y êtes pris, Léonard? Quel âge vous avez?
J'ai 15 ans.
Je peux te dire tu, alors. Comment tu t'y es pris pour cette recette? Elle sort d'où?
Je vais adapter un petit peu ce que j'ai trouvé sur Internet.
Oui.
Et donc, j'ai mis 150 g de beurre doux. Oui. Donc, un beurre bio, tous les ingrédients sont bio. 90 g de sucre de canne complet.
Oui.
Le beurre, je le ramollis une heure avant et ensuite, je bats les deux. Un peu de sel. Pour la farine, j'ai mis de la farine semi-complète d'épeautre. Donc là, encore en bio, parce que sinon, vu que c'est complet, ça prend tous les pesticides, quoi. Donc, en bio, et puis ça nourrit bien l'épeautre.
Et intéressant, l'épeautre.
Ouais.
En voilà une farine nutritionnellement très intéressante, ça change du blé.
Ensuite, j'ai mis, pour remplacer la levure chimique, 2 pincées de bicarbonate de soude alimentaire. Mm-hmm. Faut pas en mettre trop parce que sinon, ça a un petit goût.
Alors, bicarbonate de soude, on pourrait te dire, Léonard, bon, bah, voilà un additif.
Mais
ça remplace, en fait, de la levure chimique qui a plein d'autres choses un peu...
Et puis, avec un peu de jus de citron, le bicarbonate de soude, on le sent pas. Mm-hmm. Ensuite, gros œuf, un peu d'extrait de vanille. Et puis, pour le chocolat noir, c'est à votre goût. Et c'est au moins 70% pour que ce soit pas trop sucré.
Bravo. Et alors, bon, on a une spécialiste cookie à ma droite quand même. Ne soyez pas trop impitoyable.
Il est très bon.
Non.
Franchement, il est très bon. Il n'est pas sucré. Il a une texture un peu friable. Et c'est un cookie très agréable à manger.
Et on peut dire que vous nous préparez un sacré coup sur les cookies quand même.
Oui, qui sera en librairie et pas qu'à la librairie gourmande, mais dans toutes les librairies, je l'espère, mi-novembre.
Vous allez être obligé de venir nous en reparler, évidemment. c'est bon, non ?
Très bon.
Je tiens juste à dire qu'il faut la pâte, elle est un peu collante, donc il faut la filmer et la mettre toute une nuit au réfrigérateur. Mmh. Et ensuite, on découpe des tranches qu'on met au four 13 minutes à 160 degrés.
Super bon, bravo Léonard, merci. Et vraiment. Et Léonard, tu pratiques à la maison une pâtisserie naturelle avec que des ingrédients sourcés?
J'essaye au maximum, ouais.
Eh bien écoute, bravo, tu reviens quand tu veux au micro et tu nous fais des recettes surprises. Absolument quand tu veux. On se quitte déjà malheureusement, chers amis. Hugues Pouget, on peut retrouver vos créations naturelles chez Hugo et Victor, 40 Boulevard, Raspail, Paris 7e. Il y aura une très belle actualité. Ah non, oh là là, j'ai pas le droit de le dire. Ah, il est fatigant. Ok, bon, d'accord.
Je reviendrai.
Voilà, vous reviendrez, Hugues, avec grand plaisir et merci beaucoup pour votre générosité. Jennifer Hart Smith, vos recettes vont inspirer plus d'un pâtissier amateur, ça j'en suis sûr. On les retrouve, vos recettes, dans Pâtisserie Naturelle. Les recettes d'une pâtissière naturopathe chez Marabout. Et vraiment, c'est un très chouette livre. J'y ai trouvé des tonnes d'idées et je peux vous dire que ça va me booster pour en faire à la maison avec les enfants, les amis, etc. Toutes les infos et les recettes sur franceinter.fr à la page On va déguster. La semaine prochaine, la noix au menu dont va déguster avec dans les fauteuils des chroniqueurs Antoine Gerbel et Estherelle Payani. À dimanche prochain, si vous avez encore faim, merci.